Nous sommes mercredi 29 mars 2017 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah.
Ah ouais, c'est vrai. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Yo les trashers.
Non, ça suffit, stop. Cette blague n'est plus drôle. Mais... Bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Voilà. Donc ça va être l'émission Zelda Spoil qu'on avait prévu la semaine dernière. Donc ça va spoiler à mort, je préviens. On divulgage comme des porcs. On ne vous épargne rien. Nous parlerons de l'histoire, on parlera des donjons, on parlera des différentes épreuves, on parlera des équipements, on parlera de tout ce qu'on a réussi à ramasser. Et on essaiera de finir l'émission sur la note, les quelques anecdotes un peu rigolotes, ce qui nous est arrivé de plus fun, de plus drôle, de plus rigolo, de plus bâtard, de plus n'importe quoi. Enfin voilà, tous les trucs un peu marrants qu'on a pu tester, soit avec le moteur physique, soit avec le moteur chimique, ou simplement des choses bizarres qu'on a pu voir. Voilà, essayer de raconter un petit peu une expérience de jeu, on va essayer de tous en raconter, peut-être une, peut-être deux, on verra en fonction du temps qu'on a. Mais nous allons commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu, parce que cette semaine, il y a éventuellement un peu d'actu.
Il paraît, ouais.
Drosgar, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu préfères que je commence?
Non, je peux commencer, de toute façon, c'est pas grand-chose.
Je te laisse la main.
Alors, vous savez que j'aime bien Pokémon, je pense que maintenant c'est un secret pour personne.
Salut les trashers.
Bonjour, c'est David Lafarge Pokémon.
Ah non, personne jamais. En gros, il y a eu un manga Pokémon qui a commencé à sortir à partir de 97, je crois, qui ne suit pas vraiment en fait l'histoire du jeu, qui est beaucoup plus adulte dans le propos, et même un peu trop parfois avec des morts assez violentes de Pokémon, certains qui sont même découpés, c'est vraiment assez brut, hein, c'est pas pour les enfants comme peut être le jeu en général. Et ces mangas qui sont un peu tombés dans l'oubli ont commencé à être réédités par Kurokawa à partir de 2014 normalement.
Ouais, c'est un truc comme ça. Alors, normalement, par contre, sur ça, le côté plus adulte, j'irai pas jusque là parce que de mémoire c'est publié dans le Kurokuro Comic, qui est un magazine de publication de BD pour enfants au Japon. Donc
pour les avoir relus depuis les rééditions, vraiment le propos est parfois assez dur, je trouve. Hein.
Par rapport à l'anime, on va dire que c'est un petit peu plus intéressant pour un adulte, mais pour avoir lu donc les trois tomes de l'aventure bleu et rouge et les deux premiers de Or et Argent,
ouais.
Je trouve quand même que ça reste du manga pour enfants. C'est agréable à lire, mais la partie que j'appréciais venait plus de mon souvenir des jeux que du récit en lui-même, quoi. Parce que je sens quand même que je suis pas dans le public visé à la base, quoi.
Voilà, après c'est pas non plus un manga psychologique comme on peut avoir sur le marché, mais pour du Pokémon, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut te toucher un peu plus, je trouve.
Bah, si tu veux faire du Pokémon autrement qu'en jeu vidéo et un truc qui ressemble à peu près, le manga est meilleur que l'anime de ce côté-là.
Et du coup, cette semaine, Kurokawa a annoncé pour le mois d'avril la réédition des tomes, enfin des parties Vert-Feuille, Rouge-Feu et Émeraude, donc qui vont arriver assez rapidement, ce qui est une bonne chose, vu que... Enfin, ils sont quand même sur une bonne lancée, ça veut dire aussi que les mangas se vendent. J'avais un peu peur au début, justement, qu'ils restent bloqués au premier cycle, et pour l'instant, il y a déjà les trois premiers cycles sortis, donc toute la partie Rouge-Bleu-Jaune, toute celle Or et Argent, et toute celle Saphir et Rubis. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà, ça a été annoncé.
Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que c'est pas un format manga habituel d'environ 200 pages, format poche. Là, je crois qu'ils mettent 2-3 tomes d'un coup dans des formats assez volumineux et plutôt rigides.
C'est ça, et du coup, on fait aussi des économies de ce côté-là.
Voilà, pour un prix de 10€, donc pour 30€, tu as quand même tu as pu avoir de blanc, enfin toute une série de jeux en fait, ce qui est plutôt sympa.
Donc plutôt bon plan, quoi, du coup, en termes de tarifs, je veux dire.
Bah, oui, totalement.
Plutôt s'en sortir.
Pour le coup, oui, et contrairement, je pense, aux éditions de Glénat, parce que je crois que c'était eux qui avaient édité ça au moment où les jeux étaient sortis en France.
C'est ça.
On a une traduction qui est très respectueuse de l'œuvre d'origine, essentiellement parce que Nintendo, derrière, est au cul de Kurokawa, et leur dit « Non, par contre, les gars, c'est comme ça que ça s'écrit et pas autrement. »
Ok, donc ça peut être intéressant. La deuxième actualité, c'est moi qui l'ai. Vous avez probablement entendu parler de Lego City Undercover qui ressort sur Switch.
Non, oui. Parce qu'il est bien couvert. C'est nul, putain. Je meurs.
Oh voilà, putain, Undercover.
Voilà, tu... JPP, là, hein, j'en peux plus, là.
Tu sors.
Tu... Voilà. Tu sors du bar, tu es puni 5 minutes. on va faire ça, on va faire des bans temporaires, bans de 5 minutes, parce que trop grosse connerie. Bref, il y a eu une sorte de mini-scandale qui a été très vite étouffé par Warner Bros. Y avait apparemment écrit sur les premières images de la jaquette du jeu qui était sortie, à 13 gigas de téléchargement obligatoire pour pouvoir jouer au jeu le jour J, c'est-à-dire enfin, évidemment tous les journalistes spécialisés, alors je mets des grands guillemets, hein, journalistes spécialisés, les presse de vidéo,
on peut citer Gameblog.
Il n'y a pas que eux. Hein. À dire, ah bah oui, forcément, le format cartouche, ça va coûter cher, bisque rage, vous auriez mieux fait de faire du Blu-ray. Et en fait, ça a été démenti très rapidement par Warner Bros. Qui a dit non, il n'y a pas de souci, le jeu est bien en intégralité sur la cartouche, aucun problème là-dessus, il n'y a même pas de connexion internet requise pour pouvoir jouer. Les seuls téléchargements qu'il y aura, c'est les téléchargements de patch correctif du jeu, mais vous avez bien l'intégralité du jeu sur la cartouche. Donc ils ont quand même désamorcé le truc très vite. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas faire un patch de 13Go Day One histoire de faire chier tout le monde, ce serait quand même marrant.
Ce serait un peu chiant, ouais, effectivement.
Mais voilà, c'était quand même un peu bizarre. Le jeu fait apparemment 20Go, et c'est vrai que 20Go, normalement, sur une cartouche Switch, ça doit tenir.
Le plus gros jeu pour l'instant, c'est Dragon Quest 1 et 2. Dragon Quest Heroes 1 et 2, pardon, qui est exclusif au Japon, et je crois que lui, il a atteint les 32Go.
Voilà, il a probablement atteint les 32Go, de toute façon, on sait que le format va être limité. Maintenant, ce que je me dis, c'est que Nintendo est peut-être aussi en train d'éteindre l'incendie, parce qu'il y a eu l'annonce de Rime, qui coûterait 10€ de plus sur Switch que sur les autres supports. Il y a eu cette histoire donc de Lego City Undercover, où des joueurs ont découvert que, oh là là, il y avait, en réalité, le jeu n'était pas entièrement sur le truc, il fallait télécharger 13Go en plus pour pouvoir y jouer, alors qu'en réalité c'est faux. Ce que je me dis, c'est que Nintendo est peut-être aussi en train de se dire, bon, on va peut-être baisser le prix des cartouches pour tout le monde, histoire d'éteindre l'incendie et d'éviter que ça parte en couille. C'est quand même une possibilité. Maintenant, on sait que la production de cartouches coûte un petit peu plus cher que la production de Blu-ray, mais je pense sincèrement que sur la durée, Nintendo aurait intérêt à faire un geste commercial vis-à-vis des éditeurs tiers en essayant de baisser les prix des cartouches. Alors, ça coûtera toujours un petit peu plus cher, mais tant que ça reste raisonnable, pour moi, tout le monde s'y retrouve.
Et puis on va pas se mentir, en termes de du côté pratique, un CD sur une console portable...
La PSP, quoi.
Ouais, mais les temps de chargement de 12 heures...
Rien que le bruit déjà, c'est insupportable.
Ouais, voilà. Non, et puis ça veut dire avoir un lecteur Blu-ray dans sa Switch. Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point ça prend de la place, ces trucs, et que...
Le CD dépassera.
Oui, non, mais en plus, voilà, puis rien que le fait d'avoir un spinner derrière, ça veut dire que t'as de la mécanique en plus, ça veut dire que t'as de l'usure en plus, ça veut dire que t'as un laser qui se balade, ça veut dire... Bon, c'est très compliqué. Moi, c'est vraiment le prix du support où je me suis dit... Enfin, je me suis dit, Lego City Undercover, on l'a pas relayé, en fait, sur le dojo, parce qu'on s'est dit que c'est... Enfin, moi, personnellement, j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, ça cache quand même quelque chose, attendons une réaction officielle, parce que voilà. Et la réaction officielle a très vite désamorcé le truc, en disant, non, pas du tout, attendez, c'est une énorme connerie. Voilà. Alors, peut-être que pendant un moment du développement ou de l'édition, les mecs se sont dit, ah, peut-être qu'on va aller gratter... on va aller mettre une cartouche... Enfin, on va aller mettre une cartouche de 16Go seulement, et puis on va faire télécharger le reste, puis finalement, a priori, ils ont quand même laissé tomber. Bonne nouvelle pour nous. Bref, nous enchaînons sur Zelda Breath of the Wild, donc là, ça va. Mais alors, je vous préviens, ça spoil à mort.
Ce sera The Legend of Zelda, l'appel du spoil.
L'appel du spoil.
T'entends le spoil qui t'appelle.
Il y a Link dans le sommage. Le boss de fin, c'est Ganon.
C'est
car
Ganon.
Seul Link peut vaincre Ganon.
Putain,
Ganon,
il m'énerve. vous êtes lourd.
Bref, donc on considère que vous êtes tous partis du plateau du prélude, que vous êtes un peu baladé, que vous avez vu de au moins un donjon, à peu près. Je pense.
Ouais, voire même un petit peu plus que ça.
Ouais.
Voire même un petit peu plus que ça. On avait pas parlé de la collecte de souvenirs la dernière fois, puisque forcément c'est quand même une des premières quêtes et on voulait pas trop la dévoiler.
En fait, c'est surtout travers le souvenir que t'as tout l'aspect scénario du jeu, scénaristique.
Ce qui est pas idiot d'ailleurs, parce que ça permet d'éviter d'avoir de la... Parce que la narration dans un jeu en open world, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué à faire et... Enfin, tu sais, c'est toujours le truc, c'est vite, il faut aller sauver machin, sinon il va mourir. Et en fait, tu peux aller faire 30 quêtes annexes entre deux. Donc le vite, il est très relatif et ça casse tout de suite énormément la narration du jeu, d'avoir ce genre de choses-là, où soit t'obliges le joueur à aller sur des rails et tu le forces à avoir la narration, et ça devient... Sur un open world, c'est vraiment très contradictoire. Soit tu dis vite, il faut aller le sauver, sinon c'est la merde, et tu laisses les mecs faire ce qu'ils veulent, et du coup, ça fait pas un truc très cohérent. Du coup, là, les souvenirs, je trouve que c'est plutôt bien amené, parce qu'effectivement...
Bah déjà, faut rappeler un détail de la progression du jeu, c'est que dès le début du jeu, on te dit ton but c'est de tuer Ganon, et t'as pas vraiment autre objectif. Enfin, le monde est déjà terminé, tout est déjà perdu, et au final, tu fais un petit peu ce que tu veux pour aller. Donc, le fait d'avoir des souvenirs cachés, mis à des endroits clés du jeu, ça permet aussi de découper la narration. Et donc, aux joueurs finalement d'aller un peu comme ils ont envie, quoi. Tu t'en fous de l'histoire, en fait, tu peux très bien t'en passer.
Tout à fait, mais ça, oui, si t'as pas envie de récolter les souvenirs, t'y vas pas. Tu peux vraiment te le faire en mode je vais fighter Ganon et puis c'est tout. Mais en même temps, je trouve ça vachement intéressant la mécanique de souvenirs. D'abord, pour le côté narration, comme tu disais, c'est-à-dire finalement tu fais ce que tu veux. Tu les ramasses dans l'ordre que tu veux.
Et puis tu sais même pas si le. Parce qu'on te file, une série de photos.
20 photos.
Non, il y en a 12. Il y a 12 photos et les autres souvenirs, c'est à des moments précis du jeu.
Ah oui, c'est ça.
C'est quand tu as fini un donjon ou que tu en commences un ou que tu rencontres un personnage important où là, effectivement, tu as des souvenirs qui se déclenchent aussi. Mais là, c'est vraiment des instants totalement scénarisés parce que tu rencontres le chef du village Piaf. Pouf, tout d'un coup, tu as un souvenir.
Ouais, en fait, souvent, d'ailleurs, les souvenirs concernent plus la princesse Zelda que les autres personnages qui, eux, vont plus être mis en avant lors de leur. Lorsque tu vas dans leur région respective, on va dire. Alors, je parle des autres prodiges. Qui sont des personnages secondaires dans le jeu.
Tout à fait, oui. C'est ce qu'on apprend sur les autres prodiges et effectivement très lié soit au donjon, soit à la zone précise, c'est-à-dire vraiment le village Piaf, le domaine Zora, la vallée, enfin le désert Gerudo et la montagne de la mort. Alors c'est montagne de la mort, c'est la montagne Goron d'ailleurs, j'ai pas.
C'est la montagne de la mort.
C'est la montagne de la mort.
Il y a d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, la même musique que la montagne de la mort dans le donjon de la montagne de la mort dans le premier Zelda.
Oui, effectivement, c'est le même rythme. Alors par contre, il y a un petit peu plus d'instruments quand même. Hein.
Ah bah c'est pas très dur. Hein.
Bah par rapport à la NES, c'est un petit peu plus simple. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Ce que je trouve intéressant en prime, c'est effectivement, t'as des souvenirs qui sont très précis et liés à un personnage bien précis, mais tous. Quasiment tous tournent quand même autour de Zelda. Il y a vraiment, quand tu croises Urbosa dans le désert Gerudo, donc qui est le prodige Gerudo, elle a aidé Zelda à faire je sais plus quoi, à essayer de s'entraîner pour devenir plus forte parce que bah elle n'y arrive pas, machin, tout ça, elle est bloquée. Pareil dans le domaine Zora, le prince Sidon, qui est lié à Mipha, donc qui est le prodige, il connaissait la princesse Zelda d'il y a 100 ans parce qu'apparemment les Zora vivent très 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 longtemps.
C'est genre les elfes en fait.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu les elfes du truc, sauf que c'est des elfes de l'eau, ce qui est très curieux d'ailleurs. Et pareil, quand tu vas au village Piaf et que tu croises, alors je sais plus comment il s'appelle parce que alors lui il est totalement transparent comme personnage, donc c'est vrai que c'est un peu. C'est peut-être le moins intéressant que j'ai croisé jusqu'à présent.
Le prodige ou celui qu'on croise dans notre époque?
Dans le prodige Piaf.
Oui, qui est un peu arrogant, abuse sa personne.
C'est un peu Falco en fait, j'ai l'impression. Enfin, je l'ai pas, je suis pas allé au village Piaf, mais j'ai vu une cutscene avec lui. Il avait un peu une tronche de Falco, quoi.
Mais il a ce côté très arrogant, tout ça. Mais je trouve que le personnage en lui-même est pas extraordinairement bien écrit.
Bah, on va pas se mentir, ça reste une écriture Nintendo plutôt simple. Mais je trouve que c'est très efficace par rapport à ce qu'il veut raconter parce que du coup, le fait que t'as pas les souvenirs forcément dans l'ordre. Que tu découvres au fur et à mesure que ce sont finalement juste des instantanés de ce qui s'est passé 100 ans auparavant, bah, avoir un récit plutôt simple, des événements finalement assez limpides, ça aide pas mal à comprendre, mais du coup, à côté, t'as des personnages, on va pas dire pas très compliqués, enfin... Typiquement, la princesse Zora, elle est encore amoureuse de Link.
Alors, la princesse Zora est amoureuse de Link, mais
la relation entre Link et les Zora, ça a toujours été compliqué, hein.
Par contre, Sidon... À un moment, quelqu'un s'est posé la question de comment ça marcherait, parce que... je veux dire, techniquement, elle a pas de. Oui. Enfin, c'est compliqué. Donc moi,
elle a d'autres orifices.
Certes, mais
de toute façon, elle pond des œufs, non?
Oui, ben justement, c'est un peu. C'est un peu cracra, quoi. Enfin, je veux dire, bon, bref. On n'en était pas là. Non, mais déjà, je me suis demandé à un moment, je me suis dit, tiens, si tu fais une circoncision à la lame purificatrice, est-ce que... Bon, bref.
Bref.
C'est compliqué. Non, mais voilà, effectivement, la princesse Zora est encore amoureuse de Link, mais je trouve que, finalement, la relation, entre guillemets, d'intimité entre les deux est pas si mal construite que ça.
Non, mais, en fait, je trouve que, généralement, ça touche toujours bien. Il y a... Enfin, moi, ce que j'ai pu voir, il n'y a pas tellement de fausses notes. C'est quand même des personnages que j'ai envie d'apprécier, que je trouve très agréable à suivre.
Il y a un côté, je trouve, très juste, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas... c'est toujours compliqué de parler d'amour. Quelque chose de, voilà, même au cinéma, ça, tu peux vite tomber dans la caricature, dans la comédie
en
romantique.
Fait, ils paraissent plus amis.
Ils paraissent beaucoup plus amis. Effectivement, ça a plus l'air d'être les amis d'enfance qui auraient pu être amoureux si les choses avaient tourné autrement. Et je trouve que, du coup, l'écriture est assez maligne, entre guillemets, parce que c'est un tout petit peu plus subtil que ça en a l'air. Ça reste très léger, hein, je veux dire, c'est pas non plus... T'as pas 15 ans de développement du personnage et tout ça, mais finalement, ils ont fait quelque chose de simple, efficace, compréhensible, sans tomber dans le cliché du personnage... du personnage outil, pratiquement. C'est-à-dire que c'est, tu sais, c'est le black de service, celui qui va crever à la première scène, le machin. Tu n'as pas vraiment de personnage fonction. T'as des personnages qui sont un petit peu plus... voilà, qui sont effectivement pas très en profondeur, mais qui sont très bien amenés à chaque fois, assez subtilement amenés, et avec une narration qui leur correspond toujours à peu près. Même le Piaf, que je trouve le moins intéressant, finalement... ça se défend quand même pas mal.
Et puis on va pas se mentir, c'est quand même très bien aidé par la direction artistique du jeu, les choix d'animation qui sont très très réussis. Et je pense que ça participe vraiment à l'amour qu'on peut avoir le personnage. Personnellement, les Gorons, c'est pas un peuple que je trouve extrêmement fan. J'étais plus fan des Zora avant. Et donc là, vendredi soir, je suis arrivé au village Goron. Et je débarque dans la mine et puis je les vois avec leurs petites bouilles. En plus, ils ont fait plein de variétés. T'en as des plus mecs, des plus gros. T'as des petits Gorons tout mignons. T'as les vieux qui commencent à plus voir devant eux. Puis je les vois avec leur petit casque de chantier jaune fluo. Mais le truc complètement anachronique dans un Zelda. Et ouais, je me dis, c'est trop bien. C'est trop content.
J'ai fait une des quêtes qui consistait à... Et à un moment, tu parles à un mec qui te dit, ah, il y a peut-être un sanctuaire à tel endroit. Je me souviens plus exactement. C'est derrière les chutes de machin. Donc on y va. Puis t'en croises un qui est là en mode, ah, je suis en galère, sa race, j'arrive pas à casser le mur, je suis vraiment... ouais, j'y arrive pas. Est-ce que tu veux bien aller me chercher un steak de caillasse? Steak de caillasse. Mais qui dit, c'est juste là, pas de problème, c'est juste là. Non, c'est une pente de ouf. Le steak de caillasse, ça pèse 2 tonnes. Dès que tu le fais béton, il retombe tout en bas. Et il y a plein d'ennemis sur le chemin. Super simple. Et quand tu lui files, en fait, il le met sur un barbecue. J'ai trouvé ça juste excellent. C'est-à-dire que le mec met le steak de caillasse, qui est donc en fait un gros caillou qui a une forme de poulet de Castlevania, quoi, en gros, tu vois. T'as deux os chaque bout, mais qui sont en pierre, et puis t'as une espèce de gros rouleau en pierre. Il le met sur un barbecue, et en fait, à un moment, le truc s'allume parce qu'il est en lave, ça y est, il est cuit. Et j'ai trouvé ça juste excellent. C'est un truc tout con, mais t'as juste une animation de merde qui fait que entre le steak de caillasse cru et le steak de caillasse cuit, la différence, c'est ben, les lézardes sont allumés en rouge parce que il est cuit, il y a de la lave au milieu, et le truc, il est un peu plus noir, le goron le mange, et puis il y a la super force, machin, il sort une pioche, et puis il défonce le truc. C'est des petits détails à la con, mais je trouve que c'est effectivement extrêmement mignon, et les gorons, je les trouve super chouki, super kawaii. Et je trouve que les Zora faisaient très sérieux à côté avec leur forme très longiligne. Très...
Mais dans l'ensemble, de manière générale, les Zora sont toujours un peu plus sérieux que les Gorons. Enfin, c'était le cas dans Karen of Time, et pour le coup, c'est bien renforcé ici. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu ce côté elfique. Dans le jeu, ils sont beaucoup plus nobles. Il y a une certaine prestance.
Finalement, t'as les nains, c'est les Gorons, t'as les elfes, c'est les Zora, t'as les piafs,
Ça se voit aussi dans leurs armes, en fait. Les armes Zora, je pense que c'est parmi les plus beaux designs. Enfin, toutes les armes ont des designs vraiment bien pensés, dans l'ensemble vraiment super. Mais les armes Zora, tu vois qu'il y a une réflexion sur les courbes, les couleurs, pour voir ce côté un petit peu, se rapprocher un petit peu de l'eau. Or que les armes Gorons, en fait, c'est juste des espèces de gros pavés de pierre.
Un peu gravés pour faire... pour faire travailler, mais sinon, oui, c'est ça, avec une poignée, et hop, il casse tout avec.
Ouais, c'est très brut de découvrage, c'est un truc de Goron, et ça fait partie de tous ces détails, franchement, qui font que l'ambiance du jeu, enfin, en tout cas, l'univers du jeu, en plus de ce qu'on a déjà pu dire avec le moteur physique avant, rend très très bien.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de Zelda? Parce que vous avez, je suppose, tous découvert quand même pas mal de souvenirs. Moi, il m'en manque que deux, je crois. Il y en a un qui doit être au château, je suppose. Et
bah,
y en
moi,
a...
il manque que celui-là.
Ben voilà, celui-là, je l'ai pas. Et moi, il y en a un dans une forêt, et je sais absolument pas
alors
où il est.
Je sais où il est.
C'est dans les bois perdus?
Non. Mais c'est pas loin. Okta, il y a un relais. C'est dans la zone centrale du Rul. Enfin, il y a un relais pas loin. Et si t'as rencontré le mec qui fait des peintures, il te dira
peintre.
Où c'est. Voilà.
Ouais, bon, faudrait que j'aille revoir là-dedans parce que je.
En fait, il sera au relais, à ce relais-là, et il dira que le truc est pas loin en fait.
D'accord, parce qu'il y a un des souvenirs.
Je crois que c'est le relais où tu as le piaf qui joue de l'accordéon.
Et en fait, il est un peu partout.
Ah, d'accord.
Il
le piaf qui joue de l'accordéon, tu le retrouves un peu partout. Ouais.
Je l'ai vu 3-4 fois dans des relais.
Balade, en fait.
Et il y a d'autres endroits aussi pour donner des énigmes.
Exactement. Mais parce que moi, il y a un des souvenirs où j'ai bien galéré, c'est il y avait un arbre, un caillou et le château d'Hyrule juste en fond.
Ah non, il était facile celui-là.
Bah non, parce qu'en fait, il y a deux endroits qui peuvent correspondre.
C'est celui qui est derrière au nord, au nord-ouest.
C'est celui qui est derrière au nord-ouest, mais en fait, si tu vas au sud-ouest du château d'Hyrule, t'as à peu près le même caillou, le même arbre et la même colline et une vue du château d'Hyrule qui ressemble beaucoup. Et c'est très perturbant.
Ouais, en fait, les souvenirs, enfin, je trouvais ça plutôt intelligent, les photos, parce que, au final, si tu regardes bien les points de repère.
Oui, la montagne.
Ils indiquent,
dans le fond,
alors, à part la forêt que tu peux pas trouver, en vrai, sans parler au peintre, je pense que c'est juste pas possible, parce que ça ressemble vraiment à n'importe quelle forêt. Tu peux trouver facilement, il y en a 2-3 comme ça, j'ai regardé la photo, je suis à peu près sûr qu'elle va être dans ce coin-là, quoi. C'est quasiment sûr, et je me suis mis à la trouver au bout d'un moment, quoi.
Oui, voilà, mais en forçant un peu, t'arrives toujours à trouver.
Ouais,
tu,
voilà.
Tu finis toujours par te débrouiller.
Trouve toujours ton chemin vers le bout.
Et après, dans tous les cas, voilà, il y a le peintre, des relais qui donnent toujours un petit coup de main pour essayer de trouver la petite photo manquante.
Il est souvent à proximité en plus, donc.
Oui, en plus, il est. Tu peux arriver à le trouver, mais t'arrives à t'en sortir. Mais enfin, voilà, il y en a qui sont un peu plus compliqués à trouver que d'autres, mais c'est vrai qu'après, en ayant un petit peu le sens de l'observation et en étant un peu malin. Moi je me rappelle de celui, il y en a que j'ai trouvé vraiment très rapidement parce que je me dis ah mais je suis passé là, c'est con hein, mais ah le bazar à sec, je suis passé, je suis obligatoirement passé, donc ça,
oui,
ça ressemble
facile,
à ça,
ouais.
C'est évident, c'est là. Les monts Géminés avec l'arbre, le machin, le truc.
Ouais, celui-là j'ai quasiment,
que ça.
Bah, celui-là j'ai pas eu trop de mal parce qu'au final j'ai quasiment, une fois que je débloquais la carte de la zone, j'ai fait ah bah tiens ça ressemble et hop c'est bon.
J'ai cherché une petite étendue d'eau et c'était bon.
Mais ouais, c'est ça en fait. Tu cherches la montagne dans le fond, tu te dis l'alignement c'est à peu près ça, faut chercher un arbre, allez ça doit
c'est
être
ça.
À peu près par là.
Moi je trouve ça plutôt bien fait. Ouais, bon, pour revenir au sujet de l'histoire, j'ai pas encore tout vu, mais moi j'aime bien ce côté un petit peu. Bon bah on part un peu comme pourquoi le monde a fini, pourquoi ça s'est passé. Et ça renforce le côté vraiment très mélancolique du jeu. Parce qu'en fait, quand tu regardes les flashbacks, tu te rends compte que ben, autant Link avait l'épée, autant Zelda n'était pas du tout sûr d'elle.
Mais c'est ça, moi je trouve, il y a un côté extrêmement dramatique et tragique dans le truc.
Et de toute façon, pour moi, tout le jeu repose sur une ambiance très mélancolique et à la fois pleine d'espoir. Enfin, moi j'ai toujours cette impression en jouant au jeu que c'est un jeu qui est une histoire de. Ben, ceux d'avant ils ont foiré et donc ils passent le relais à ceux de maintenant, puis ça se voit avec les prodiges qu'ont toujours un lien avec un autre personnage dans leur région, donc typiquement Mipha et son frère, tu as le Goron, le chef Goron et son descendant un petit peu peureux qui finalement t'aide quand même à aller affronter le gardien divin sur la montagne
et qui a récupéré en plus le pouvoir de son ancêtre.
Ouais, bien balèze en plus.
T'as l'héritière d'Urbosa dans le désert Gerudo, c'est pareil, c'est la nouvelle reine ou la nouvelle chef des Gerudo qui t'aide, et qui a effectivement une relation un peu particulière avec. Alors, je sais pas si c'est sa mère ou sa grand-mère ou quelque chose comme ça.
Enfin, elle a aussi une relation particulière avec Link, hein, tu me diras.
Elle a aussi une relation particulière avec Link, mais c'est je trouve moins évident.
Oui, mais
c'est
plus jeune aussi.
Mais voilà, t'as tout un côté mélancolique, c'est bien renforcé par les compositions au piano, enfin le petit piano qui commence quand tu te balades dans la plaine complètement vide, alors que t'as toujours en fond cette espèce de brume noire devant le château. Il y a vraiment une ambiance très très chouette, en tout cas dans le jeu de manière générale, et c'est vrai que se balader, tomber sur des ruines, tu te demandes ce qui s'est passé, je trouve ça vraiment très très cool en termes d'ambiance de manière générale, et l'idée d'avoir des souvenirs comme ça renforce, permet de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais de façon totalement optionnelle.
Mais ceci dit, tout le jeu est cohérent aussi au niveau de l'histoire. Tu parlais tout à l'heure des open world où on te force à aller quelque part, à faire quelque chose en urgence. Là, t'es jamais poussé à le faire, puisque Ganon, il est là depuis 100 ans. Il est à peu près maintenu dans la zone du château. Donc, bon, t'as le temps. Les gens s'y sont habitués. Le monde est en ruine, mais t'as rien vraiment qui urge.
Bah, c'est ça. Et puis, quand tu regardes, bah, finalement, les auras, ils ont survécu depuis. Mais tout ce qui est être humain, bah, ils sont loin du château, mais ils ont reconstruit des trucs. Enfin, t'as le village d'Emérite qui est tout à l'est. Enfin, je sais plus si c'est Emérite d'ailleurs. Hein.
C'est Emérite, t'as Cocorico, t'as Akala.
Tu vois, Cocorico, tu le sens un peu isolé. C'est un petit peu un village ninja aussi. Puis t'arrives au village d'Emérite et là tu vois un truc qui est quand même florissant. Les mecs ont l'air de vivre leur vie et genre ils sont tranquilles globalement.
Oh, non, mais il y a aussi le village sur la côte qui s'appelle je sais plus comment. Je suis juste passé en coup de vent
oui,
parce que.
Ah, celui-là, ouais, je l'ai visité un peu. D'ailleurs, c'était une bonne surprise, mais j'en ai pas du tout à tomber dessus. Au loin, je me disais, tiens, il y a des trucs allumés.
Ah, non, c'est, ça, en fait.
C'est sûrement un truc avec des méchants dedans et je m'approche et je fais, non, c'est un village.
C'est un village, en fait, ça doit être la zone où j'ai passé le moins de temps. En fait, Emérite et ce village-là, je suis vraiment passé en fait, coup de vent. J'ai à peine rempli trois quêtes annexes et je me suis dit, bon, je fais autre chose parce que je veux partir faire ça.
Mais en fait, la zone tropicale au sud-est, c'est globalement la zone. Enfin, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, elle est vraiment extrêmement optionnelle. Quoi. J'ai vu trois sanctuaires, le village, mais il n'y a pas de truc majeur là-bas. Quoi.
Si, il y a un truc qui est tout au sud-est de la carte où je suis allé hier et je suis mort du coup j'ai arrêté parce que
c'est l'île Finalis.
Voilà l'île Finalis, pardon.
Ah oui, bah celui-là il est assez fun de défi, faut que je le fasse un jour.
C'est le truc on te lâche à Walp. Ouais, c'est ça, c'est le truc on te lâche à Walp avec zéro équipement machin. Il faut que tu te démerdes. Alors, je sais pas, c'est pour tuer tout le monde ou pour juste ressortir de l'île?
Non, faut trouver les trois boules. Sauf qu'il y en a une, elle est gardée par un monstre, par un mini-boss.
Ouais, mais franchement, ça se fait assez rapidement. Et en plus, tu conserves quand même tous tes cœurs et toute ton endurance, donc...
Ouais, là, tu commences à poil, mais que au niveau de ton équipement.
Ah, mais du coup, c'est faisable ou pas comme zone? Parce que ça a l'air quand même d'être super tendu du cul, quoi.
Ah oui, c'est faisable. Hein.
Bah, je suis mort comme un con hier, et je pense pas que ça allait me faire tout recommencer. Mais du coup, j'ai arrêté. Mais sinon, oui, franchement, j'avais déjà deux orbes, parce qu'il faut en récolter trois sur l'île. Ça se fait assez rapidement, je trouve.
Voilà, donc, c'est vraiment Link vs Wild.
En même temps, tout le jeu, c'est Link vs Wild. Hein.
Est-ce que
ouais,
je
mais tu bois pas ton pipi.
Ça, tu ne sais pas.
Tu bois d'autres boissons colorées de façon jaune.
Ah, d'ailleurs, pour votre information, hein, si vous mélangez du lait, de la canne à sucre, des œufs, des boisseaux de blé et du beurre, vous faites des crêpes. Hein.
Trop bien. Meilleur jeu du monde, hein,
meilleur,
on le rappelle.
Meilleur jeu du monde, hein, je veux dire.
On le rappelle, hein, pour la cuisine.
Ma femme était désespérée il y a 3-4 jours parce que j'étais là en mode, non, il faut trop que j'aille chercher du lait, j'ai trop envie de faire des crêpes. Elle était là, genre, sérieusement, quoi, tu vas aller faire 30 téléportes dans le jeu pour aller chercher des œufs, du lait, du truc. Mais je veux tester, voir si ça marche.
Alors, je crois qu'on peut en faire juste avec deux ingrédients, parce que j'avais testé un peu n'importe quoi, et je crois qu'il y avait genre juste du beurre et du lait, ou quelque chose comme ça marche.
En fait, souvent, t'as deux ingrédients de base pour la recette, et après, en fonction de ce que tu rajoutes, j'ai l'impression que ça augmente l'efficacité ou ça rajoute des bonus.
Alors, la formule de la cuisine est assez simple, en fait. Si vous voulez faire une potion d'attaque niveau 3, enfin, si vous voulez faire un remède ou un plat d'attaque niveau 3, vous prenez trois trucs, c'est pas armo, c'est lame, différents. Vous prenez une carpe lame, une grenouille lame et un...
Une banane lame.
Une banane lame.
Je crois que les grenouilles, c'est plus pour les potions, hein.
Oui, c'est plus pour les potions.
Mais il y a les fleurs lames, il y a les bananes,
les fleurs
lames,
il y a plein de trucs. Mais l'idée, voilà, c'est à partir du moment où vous avez, je crois que c'est 3 ou 4 éléments différents dans la recette qui portent le même machin, ça vous fait un niveau 3. Si vous mettez 2 éléments différents, ça vous fait un niveau 2. Si vous mettez un seul élément différent, ça vous met un niveau 1. Donc si tu mets 5 bananes lames, ça te fera que un truc de niveau 1. Par contre, il durera plus longtemps. C'est-à-dire que là, plus t'as d'ingrédients, plus ça dure longtemps.
D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai claqué mon niveau 3 pour buter un linel blanc tout à l'heure.
T'as déconné parce que les linels blancs, tu peux te les faire, mais en mode... Le dernier que j'ai fait, je l'ai croisé totalement par hasard devant le labyrinthe de la zone nord-ouest, donc la zone gelée. En fait, c'est une zone sur laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai réussi à acquérir la... j'ai acheté, en fait, au village Piaf, la tenue... Voilà, la tenue full protection contre le froid. Donc j'ai le bonus de 7 full protection contre le froid, ce qui fait que le doublet que t'as au début, je m'en sers plus du tout. Et en fait, j'ai remarqué, la protection contre le froid marche de manière assez particulière. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite icône qui vous permet de savoir combien vous avez de niveaux de protection contre le froid, ou d'escalade, ou de choses comme ça.
Et en fait, j'ai fait ça pour le feu. Et quand je me suis rendu compte que le max c'était 2, bah, j'ai mis autre chose sur la tête.
Bah, c'est exactement le même principe. Pour le froid, c'est pareil, t'en as que 2. Donc techniquement, si tu portes le bonnet Piaf et le gilet piaf, tu peux te balader en slip.
C'est ça.
Et t'as pas froid.
Ce qui alors, est génial. Par contre, il y a un petit bonus si on porte tout l'équipement. Ça va être, on entend avec un petit bruit en fait lorsqu'on met le troisième équipement. Ça va être par exemple pour la tenue feu, une immunité totale au feu. Ou pour la tenue piaf, une immunité totale à la glace. Et pas seulement au froid.
Pas seulement au froid, mais à la glace. Effectivement, t'as un bonus de 7 en plus. Mais je veux dire, par rapport à la tenue, par rapport au Sarwell, en gros, que tu as dans la vallée Gerudo, qui est extrêmement sympa, mais qui finalement te protège de la chaleur du désert. Et encore, faut vraiment pas aller au sud du sud du sud du désert, parce que là, ça brûle sec. T'as vraiment un gros bonus de chaleur sur le truc Goron qui te permet de tenir. Hein.
Ouais. Du coup, on a d'autres choses à dire sur l'histoire ou pas?
Je sais pas, parce que je...
Moi, j'aurais
c'est bien que tu rattrapes, mais vas-y.
J'aurais un dernier petit truc, je pense avant qu'on fasse la pause musicale, parce que j'ai l'impression qu'on a plus ou moins fait le tour. J'avais parlé de l'ambiance améculique un peu fin du monde, et en fait, en parlant, ça m'a rappelé Final Fantasy VI. Et pour ceux qui ont joué le monde en ruine, en fait, mine de rien, fonctionnait beaucoup de la même façon. C'est-à-dire que quand t'arrivais dans le monde en ruine, à peu près à la moitié du jeu, t'avais un début, une espèce de tutoriel un peu obligatoire pour récupérer 3 membres dans ton équipe et le vaisseau. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu pouvais aller tuer le boss final si tu voulais. Mais sauf que c'était pas conseillé parce que t'avais pas le niveau et qu'il fallait faire 3 équipes différentes. Donc avec 4 mecs, t'allais pas aller très loin. Et ça me fait un petit peu penser à la progression de ce Zelda et même à l'ambiance parce qu'en gros, le monde est déjà en ruine, faut que tu ailles buter le boss final, mais avant de pouvoir y aller, faut que tu t'entraînes pour aller lui casser la gueule.
Mais en fait,
même si t'as la possibilité de le faire.
Ce qui est un peu triste dans ce que tu dis, c'est que ça ressemble beaucoup à un film de Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire que tu prends une raclée, tu fais des pompes, et derrière, tu retournes casser la gueule aux méchants.
Mais en même temps,
c'est très triste ce que tu dis.
Mais en même temps, je trouve qu'en termes de progression de jeu et de logique, c'est assez puissant parce qu'au final, on dit, t'as perdu la dernière fois, tu seras jamais. Là, t'es vraiment pas assez fort. Parce que la dernière fois, t'avais la meilleure épée, t'avais l'épée qu'il fallait. Va falloir que t'ailles bosser et que t'ailles t'entraîner.
Mais je trouve que c'est plutôt une. Mais c'est un peu. Ça me rappelle un petit peu, de ce point de vue-là, d'un point de vue progression, j'entends. Ça me rappelle un petit peu un truc comme Metroid Prime, tu sais, où on t'explique comment fonctionne le jeu. Alors là, t'as pas cette partie-là. On t'enlève tout ton équipement et faut que tu te démerdes pour aller faire des pompes et tout ça. Sauf que, et c'est ça que je trouve plus intéressant, c'est que dans Metroid Prime, finalement, ton avatar, donc Samus, améliorait ses armures, ses rayons, ses machins, mais finalement toi tu progressais pas vraiment, alors que je trouve que dans ce Zelda, non seulement tu améliores ton équipement, effectivement tu vas casser la gueule à des linels de plus en plus balèzes, tu vas casser la gueule à un Ordrak, tu vas casser la gueule
le linel, je pense que c'est quasiment le meilleur on va dire benchmark, le meilleur maître étalon.
Le
maître étalon, qui pour désigner un petit peu ta progression dans le jeu, parce que le premier que tu rencontres, alors
moi, je me fais débouler. Mais alors débouler.
Le premier que j'ai rencontré, c'était celui du Mont Foudre, donc avant le donjon Zora.
Et comme tout le monde,
comme beaucoup de monde, je pense. Et je pense que j'ai passé une demi-heure avant de réussir à le tuer, à apprendre ses patterns, comment les esquiver. Donc là, tout à l'heure, j'ai buté un linel blanc. Donc c'est le niveau un petit peu au-dessus, hein. Il était un peu mieux équipé, il avait des petits coups en plus. Et au bout du troisième essai, il était mort parce que je connaissais tous ses patterns, je savais quand esquiver pour faire le rush.
Mais du coup, il n'y a pas que... Alors il y a ton personnage qui progresse parce que tu as des cœurs en plus, de l'endurance en plus, tu as un meilleur équipement, tu as des bonus d'attaque, tu sais de mieux en mieux crafter ta cuisine pour te permettre d'avoir des bonus d'attaque, de défense, de rapidité, de protection contre la foudre, contre la glace. Voilà, tu t'améliores. Mais tu progresses aussi énormément parce que tu commences à apprendre les patterns des ennemis. Et c'est vrai que le premier gardien que tu croises, c'est la panique. Tu te fais déboîter et t'es juste en...
Tu cours, parce que le premier que tu rencontres, c'est près d'un des sanctuaires. Enfin, le premier, en plus, il bouge même pas, lui. Hein.
C'est la panique, quoi.
Mais tu sais pas ce qui se passe. T'as un truc qui te vise, t'as la musique des gardiens.
Et puis t'as le... Tu prends le laser dans le cul.
Et généralement, tu meurs.
Tu meurs, tu crèves d'un coup, et tu te dis, putain, là, le jeu, il rigole pas du tout. Donc, du coup, tu te mets à l'esquiver, machin. Enfin, tu t'es... Ce que je trouve génial, c'est à quel point le jeu fait monter la tension, finalement. T'as la trouille de te faire buter par le gardien. Donc, du coup, tu deviens ultra prudent dès qu'il y en a un. Et une fois que t'as compris la technique pour leur baiser le cul, ça devient, c'est pas l'air la balade de santé, parce qu'il faut pas exagérer, tu peux quand même arriver à crever très rapidement. Les linels, c'est pareil, hein, c'est suffisant
les linels, deux erreurs, en et... coups,
Même en un coup. Hein.
Oui, il y en a beaucoup. Je crois que les blancs, c'est quasiment du one-shot à chaque fois.
Les blancs te one-shot, mais Tu vois, t'as à la fois ton avatar qui a progressé, parce qu'effectivement, le Linel de base, il te one-shot, et puis quand t'as plus de cœur, bah, il te one-shot un petit peu moins. Mm. Mais tu as aussi le joueur qui progresse énormément dans sa maîtrise des timings d'esquive, dans son apprentissage des patterns, et ainsi de suite.
Et dans sa compréhension même du jeu, parce que typiquement, les gardiens, la première fois que tu vas essayer d'en affronter un à la main, tu te dis « Ah, c'est un peu compliqué », et puis du coup, à un moment, il y a des armes qui sont efficaces contre eux. Et là, tu te dis, ben ouais, je vais dans une zone, si tu repères une zone où il y a beaucoup de gardiens, ben tu prends l'équipement pour, parce que maintenant tu sais où il est, tu sais qu'il existe, et tu t'en sers, et là c'est beaucoup plus facile tout d'un coup.
Ouais, et tu commences à dérouiller du gardien un peu à tour de bras. Et ta compréhension du jeu elle s'améliore aussi, parce que si tu te débrouilles bien, il y a quand même beaucoup de Linel, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup, que tu peux arriver à baiser à distance complètement, en évitant le contact systématiquement. Alors c'est pas la méthode la plus efficace ni la plus rapide, mais ça marche. Et tu peux aller effectivement leur casser le cul à coups de bombe, de flèches, de machin, en t'éloignant, en volant, et en leur retombant dessus, en leur lâchant plein de flèches explosives, ou des flèches enflammées, quand c'est des linelles blancs, ou... Voilà. T'as toujours une possibilité, t'as toujours une deuxième option, et c'est vraiment chaque joueur qui va appréhender le jeu à sa manière, et voir comment lui progresse.
Après, là, tu parles surtout des linéaires en extérieur, avec lesquels tu peux avoir pas mal de stratégies différentes. Mais, bon, les G-Spoil, de toute façon, c'est une mission qui est prévue pour. Les linéaires qu'on croise au château d'Hyrule, vu que c'est dans des sortes de petites salles fermées, ça reste nettement plus compliqué d'émettre des stratégies différentes. Parce que dès qu'on monte un peu en hauteur, on se fait vite toucher par l'arc, et là, ça reste compliqué à battre.
Oui, alors après, il y a peut-être quand même ça, mais c'est intéressant de voir à quel point le jeu... Enfin, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est un jeu qui te permet de faire progresser ton avatar, qui te permet toi de progresser, et dans la compréhension de l'environnement, et dans la compréhension du système de craft, et dans la compréhension, je veux dire, au départ, moi j'avais créé un topic sur le forum, là, pour dire les meilleurs plats que vous avez fait en cuisine, je mélangeais les trucs totalement au hasard pour voir ce que ça faisait, quoi. Il n'y avait aucune logique dans ce que je faisais.
Ah ouais, bah moi aussi, au début. Hein.
Et à un moment, je me disais, ah tiens, c'est marrant, celui-là, il rend tous les cœurs plus 1, puis celui-là, il fait tous les cœurs plus 3, et pourquoi? Et puis tu commences à regarder les ingrédients, tu commences à essayer de comprendre. Mais je trouve ça extraordinaire à quel point le jeu te lâche complètement, que ce soit pour le scénario, que ce soit pour le craft, le combat, l'exploration, le truc te lâche, et c'est à toi d'apprendre comment faire.
Mais d'ailleurs, quand tu y repenses, mais la progression de l'avatar, finalement, elle est pas marquée, tu vois, c'est pas comme avant où t'avais des objets en plus assez effectivement, toutes tes armes cassent. Finalement, la seule chose tangible dans le jeu, et ben ça se voit dans l'île finaliste,
les cœurs et l'endurance.
C'est les cœurs et l'endurance.
C'est la seule chose qui progresse de l'avatar, tout le reste voilà. C'est toi.
Et comme on l'a parlé, il y a des ennemis, ben te vider ta jauge de cœur en un coup, ils y arrivent.
Juste une petite question concernant l'équipement, justement, pour l'instant, c'est quoi votre arme au plus haut niveau que vous avez pu avoir?
Moi, c'est l'arme du prodige Goron, le casse-montagne.
Elle a combien?
60.
Ok. Et toi, après, Mortal?
J'ai eu une épée... Non, j'ai eu une hache de gardien 3.0, niveau 60.
Oui, ça va être
niveau 72, aussi. Pardon.
Ah oui, moi, j'ai eu la 3.0 niveau 60, mais pas 72.
Et j'ai eu
niveau 72.
Je dois avoir une épée niveau 50. Mais je sais plus le nom.
Et du coup, moi, j'ai une autre question à vous poser de ce point de vue-là, puisque là, on y est. C'est quoi votre type d'arme préférée? Vous êtes plutôt épée, lance ou, on va dire, hache? Je regroupe dans les haches tout ce qui se porte à une seule main. Hein, les massues, les haches, les épées à deux mains.
Oh, ça
tout, ce qui passe, tout ce qui se porte à deux mains, pardon.
Ça va plus ou moins dépendre de l'adversaire, mais j'avoue avoir une petite préférence pour les épées à une main, parce qu'elles sont globalement les plus rapides et j'ai le bouclier avec.
D'accord.
Je suis un peu du même avis d'Antix aussi. C'est vrai que pour un ennemi qui va être grand comme les Moblins, je vais souvent avoir tendance de prendre une épée à deux mains par exemple, ou une grande masse, ou une arme Goronne. Alors que j'ai quand même une préférence à la base pour tout ce qui va être petite épée, quelque chose d'assez rapide.
D'accord. Zergy, du coup, plutôt épée, plutôt lance, plutôt arme à deux mains?
Plutôt épée aussi. Classique.
Oui, pour le côté. Alors le côté pratique de l'épée, c'est que quand tu fais une contre-attaque. On va appeler ça comme ça, c'est quand t'as le truc qui dit foncer ou tu dois marteler le bouton Y pour y aller, quoi. C'est vrai qu'avec l'épée, t'as tendance à infliger plus de dégâts qu'avec les masses ou les haches, et les épées à deux mains de manière générale, parce que tu tapes plus vite. Donc même si ton épée fait moins de dégâts en général, comme tu tapes plus, la quantité de DPS que tu sors est en général un poil plus importante. C'est pas grand chose, mais ça peut faire la différence dans certains cas.
Après, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même des armes qui sont plus fragiles. Enfin, vu qu'au final, on met plus de coups à tuer un ennemi, elle va se casser plus rapidement qu'une hache à deux mains, par exemple.
Exactement. Ouais, exactement.
C'est très variable. Du coup, pause.
Oui, du coup, pause, parce que là, ça commence à fatiguer. Donc, pour changer, on va s'écouter un petit morceau de Zelda Breath of the Wild. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est vachement sympa.
Ça a l'air un peu nul. Moi, je connais que Zelda l'appel du spoil.
Et donc, juste après la pause musicale, on essaiera de raconter chacun une anecdote un petit peu rigolote de ce qui nous est arrivé, ou voilà, quelque chose d'un petit peu fun qu'on a réussi à faire avec le jeu. Voilà, donc on va écouter le thème du Domaine Zora de Jour, qui est un magnifique remix, en fait, enfin, une magnifique réimagination du thème d'Ocarina of Time. Vraiment exactement le même genre de musique très aérienne, très aérée, qui fait vraiment... c'est vraiment juste magnifique comme morceau, je trouve. Très discret en plus. Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes 30. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Il est combien là? 21h44. Il y a Pab qui a dit moi
et
je
nous
préfère
sommes
les épées.
De retour.
Tour.
J'avais bien qu'il y avait quand même un truc là, je disais depuis tout à l'heure, j'avais coupé le micro.
Oui, mais du coup on parlait en même temps du retour.
Du retour.
Tour.
Voilà. Bon, je couperai au montage. Mortal, tu coupes au montage.
Allez, coupe.
Coupe, c'est ce que me disait le grand rabbin. Bref.
Mais justement, en parlant de couper, il y a Pab qui disait « Moi, je préfère les épées pour pouvoir tondre le gazon.
» C'est vrai que tu peux pas le faire à la lance, ce qui est très dommage.
Ça, c'est un peu compliqué, oui.
Moi, honnêtement, plus ça va dans le jeu, plus j'aime bien les lances. Hein.
Bah, les lances sont très pratiques à cheval.
Et pas que à cheval, pas mal, en fait. Ouais.
D'ailleurs, j'ai trouvé un petit truc à faire à cheval. C'est que quand il est à l'arrêt et que tu maintiens la touche pour loquer, tu peux vraiment le faire déplacer, tu peux le faire straffer.
Sérieux?
Ouais, en fait, dans les astuces de chargement, j'ai découvert ça. J'ai essayé, et en fait, ça te permet de passer les zones un peu escarpées quand il a du mal à le faire tout seul. Tu passes comme ça, tu le mets à l'arrêt, tu loques, et tu essaies de bouger sur les côtés, et ça fonctionne. Tu peux vraiment passer des zones beaucoup plus pentues que d'habitude. Voilà. Allô?
Oui, moi je t'entends.
D'accord.
Après, du coup... le cheval, je sais que je m'en sers pas souvent, parce que j'ai vraiment un peu de mal. Enfin,
moi, j'ai autant... Du coup, on devait parler des anecdotes.
Voilà, non, mais c'est.
Ouais, mais
c'est
justement,
pour ça.
Je vais dire une anecdote.
Mais juste, alors, ouais, vas-y.
Enfin, alors, moi, j'en ai, Drosler, allons-y, est-ce que tu as un truc rigolo qui t'est arrivé?
Alors, non, pas rigolo, par contre, j'ai
t'as
trouvé
le droit
par
à une
hasard.
Astuce, et t'as le droit à éventuellement un truc rigolo.
Ah ouais, donc faut quand même que je choisisse bien les trucs. Non, moi, c'est juste une news insolite, on va dire. Apparemment, dans le jeu, on peut trouver une sorte de cheval géant qui serait la représentation du cheval de Ganon. Voilà,
oui,
c'était mon main news.
Je l'ai vu, et en fait, il a chié.
Ah merde.
Il est, je l'ai
je
vu.
Je confirme, il est naze.
Il est à la zone au sud-sud du plateau du Prédule, l'espèce de corridor un peu désertique avec des gros arbres.
Ouais.
Et dans l'eau, il y avait un groupe de chevaux. Il y en avait un qui était plus gros que les autres. J'ai réussi à monter dessus en prenant la voie des airs. Et par contre, en fait, tu te rends compte que quand tu commences à aller au galop, il peut pas aller au triple galop.
Oh non.
Du coup, à titre personnel, Poney Mort 2 est beaucoup plus efficace que le gros cheval.
Moi, j'ai gardé mon cheval vert depuis le début, c'est le même. Il fonctionne bien.
Moi, j'avais Poney Mort, il était pas terrible. Poney Mort 2 est vraiment pas mal. Poney Mort 3 était pas terrible non plus. Mais Poney Mort 2, il peut faire 3 galops et c'est vachement pratique.
Mmh. Moi, le mien, il en fait 4.
Moi, j'ai dit que là, j'avais cheval avec 1S, cheval avec 2S, cheval avec 3S, et c'est celui avec le 2 aussi qui est le meilleur pour l'instant. Mais et pareil, apparemment, on pourrait aussi trouver un cheval qui serait Epona et un cheval qui serait celui de Zelda ailleurs dans la carte. Donc j'imagine que ça serait au nord-ouest et au nord-est.
Alors c'est peut-être au niveau du monument du cheval.
Ah, c'est possible.
Que tu trouverais
non, celui
de Zelda.
Enfin, je suis allé autour du monument et j'ai rien trouvé.
Mais il y en a des chevals dans le coin.
D'ailleurs, puisqu'on parle de cheval, mon anecdote que je comptais dire à la base parle de cheval, hein, parce que j'ai affronté les gros monstres cyclopes qu'on voit dans le jeu. Je sais plus comment ils s'appellent.
Les inox,
voilà.
Comme les oviers.
J'en avais affronté pas mal, mais généralement je les affrontais à pied parce que j'arrivais pas dans la zone avec un cheval. Sauf qu'il y en a un, je l'ai rencontré sur la zone tropicale, il était allongé, j'avais mon cheval et je me suis dit je vais l'affronter à cheval. Je le défonçais. Parce qu'au final c'est 10 fois plus facile. J'avais juste à galoper vers lui, à taper 2-3 coups de lance, à me barrer et à faire demi-tour. C'est beaucoup plus facile de lui mettre des flèches dans l'œil du coup, puisque t'es loin et t'as le temps de tirer. Et en petit bonus, tu fais un petit saut de ton cheval et puis tu lui sautes dessus avec ton épée. C'était très très amusant et je me suis cru dans l'attaque des titans.
Et je rebondis juste dessus avant de raconter ma petite anecdote. Les linelles, donc les gros centaures, si tu prends ton cheval et tu t'équipes d'une arme à deux mains, tu peux facile leur mettre 3-4 coups de bonus avant qu'ils commencent à se vénérer un peu et balancer des flèches.
D'accord,
que tu vas avoir du mal à éviter. Mais si t'as... Moi, j'avais ma hache de gardien 72. Donc, je suis passé une première fois, je lui ai mis un gros coup. Et en fait, avec la tenue de prodige, je pouvais aller regarder ce que je lui avais fait comme dégâts. Et ça double les dégâts facile.
Ah oui, quand tu fous un coup à quelqu'un, quand ton cheval est au galop, tu fais très très mal.
Et donc, du coup, le linel, quand tu l'entames véritablement, c'est-à-dire quand t'es obligé de repartir à pied parce que soit il a tué ton cheval, soit il t'a bourré le cul, il a réussi à te tirer 2-3 flèches, à faire fuir le cheval, t'es obligé de descendre, enfin bref, quand t'en arrives là, il est déjà bien entamé, moi, il a déjà un bon tiers de la vie en moins, du coup, ça simplifie.
Donc le cheval, c'est génial.
Le cheval, je le préfère en lasagne.
Juste pour revenir sur l'inox, avant que tu fasses ta petite anecdote mortelle, moi, ma petite technique habituelle pour les vaincre en général, c'est de prendre une arme à deux mains, d'arriver par la voie des airs pour juste mettre une petite flèche dans l'œil pour le réveiller. Ensuite, je charge mon arbre, histoire d'avoir la colère d'Urbosa qui attaque en même temps. Du coup, ça lui enlève, on va dire, les 3/4 de sa vie, et à la fin, je finis assez rapidement pendant qu'il est encore pétrifié par l'électricité.
Ouais, mais c'est la technique de base. Hein,
c'est une technique classique, ça marche très très bien.
Ah, c'est efficace.
Après, quand ils ont une protection sur les jambes, ça peut être un peu casse-couille.
Oui, ça c'est chiant par contre.
Alors, Drosgar, une petite anecdote en dehors de ça, si tu as quelque chose.
C'est pas une anecdote, mais c'est juste qu'en fait, j'avais tenté d'aller battre Ganon en ayant seulement 3 créatures mon actif. Juste pour voir en fait ce que ça donnait, je voulais pas le battre tout de suite, je voulais vraiment tout finir avant, mais bon, juste pour voir comment c'était, parce que je suis déjà allé 2-3 fois dans le château pour l'instant. Je me suis baladé, on sait jamais. Et en fait, avant de battre vraiment Ganon, j'ai affronté une sorte d'esprit, comme les boss des autres créatures. Et en fait, je me suis aperçu, une fois après avoir battu l'esprit de la créature du vent, enfin la créature chez les piafs, que c'était cet esprit-là. Et du coup, je pense qu'en fait, si on va affronter Ganon sans avoir fait aucune créature, on doit se taper les quatre esprits qu'on affronte.
Ah,
en
c'est bien
des créatures.
Possible, ça.
Alors moi, ce qu'on m'avait même dit, c'est que les gardiens, si tu les as pas libérés, apparaissent pendant le combat contre Ganon. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, tu dois affronter les gardiens d'Ivan ou les avoir avec toi. Si j'ai bien compris, c'est globalement ce qui se passe quand tu fais le jeu comme ça. Normalement.
Je t'avoue qu'en fait, je suis allé jusqu'au combat contre Ganon, du coup j'ai battu cet esprit en question. Après, il y a une petite cinématique où on voyait du coup trois créatures divines qui attaquaient Ganon, donc qui ont enlevé à peu près la moitié de sa vie. Et après, j'ai attaqué un peu, j'ai arrêté à ce moment-là, je voulais pas trop me spoiler, mais j'ai pas vu de gardien, j'ai pas vu le gardien Piaf par exemple qui combattait à ce moment-là.
C'est ce qu'on m'a dit, après, je suis pas sûr, hein. Je regarderai
sur la vidéo du speedrun. Il va y avoir des légendes de ouf, genre, ouais, tu peux voir l'émission de la princesse Zelda en fait, si tu mets un code.
Si tu utilises fort sur le camion, tu vas avoir Mew.
Exactement, ça a trop bien marché.
Mais pour Zelda, Mew. Pas dans Pokémon.
Alors, ma petite anecdote, puisque. Voilà, est-ce que vous avez fait tous le gardien Piaf ?
Oui.
Non.
Non.
D'accord. Alors, le gardien Piaf, en fait, c'est un oiseau qui vole dans le ciel. Vous le voyez, en fait, au loin. Vous voyez le truc qui tourne, en réalité, autour du village Piaf.
Juste question comme ça, ça spoil bien ou je peux continuer à écouter ?
Tu peux continuer à écouter, je pense que ça ira.
D'accord.
Ça ira.
Donc, à la fin, il meurt.
À la fin, il meurt.
Non ! Je sais pas.
Donc en fait, le gardien Piaf, c'est une espèce d'aile volante, parce qu'en fait, la forme fait que c'est une grande aile qui est creuse au milieu, et en fait, tu te balades à l'intérieur de l'aile, et tu as différents... Enfin, le gros mécanisme qui permet de bouger le truc, c'est en fait, tu vas incliner l'aile soit à gauche, soit à droite, en gros. Donc ça va créer, évidemment, des couloirs un peu différents, ça va te créer des passages un peu différents. Voilà, je vous en dis pas plus.
C'est assez proche du donjon Goron, en fait.
Alors Dojon Goron, je l'ai pas fait. Donc,
bah,
du coup, ça,
tu comprendras quand tu le feras.
Donc je comprendrai quand je le ferai. Et en fait, il y a un moment où quand tu actives un cristal, ça ouvre une fenêtre et elle n'est pas accessible. C'est-à-dire que tu t'actives le cristal, ça ouvre deux fenêtres. Une fenêtre dans la salle où tu es. Donc depuis l'extérieur, tu as du vent qui commence à souffler à l'intérieur du géant Piaf. Tu as une fenêtre qui s'ouvre de l'autre côté d'un mur, d'un mur transparent que tu ne peux pas franchir. Et il y a aussi du vent qui souffle. Et j'arrivais pas à résoudre l'énigme, mais vraiment pas. Hein. C'est-à-dire que j'avais posé une bombe à un endroit, ça faisait péter un truc, et je comprenais vraiment pas ce qu'il fallait faire pour le reste, ça m'a cassé les couilles. Du coup, en fait, je me suis démerdé pour monter sur l'aile de l'oiseau, et je me suis dit, bon, je me lance dans le vide, je fais le tour avec la paravoile, je rentre par la fenêtre en question, j'active le cristal de contrôle, rien à foutre. Et c'est passé. Et c'est après, une fois que j'ai activé le cristal de contrôle, que j'ai compris ce qu'il fallait faire. En fait, il fallait mettre une deuxième bombe, et avec le vent, elle était censée être poussée vers un autre truc, et tu déclenchais la bombe, ça faisait exploser un machin, t'avais une boule aimantée qui débarquait, tu pouvais casser la vitre ou je sais pas quoi. Mais bref, j'ai complètement guaqué le jeu, et j'ai vraiment pratiquement pas fait exprès, je comprenais vraiment pas l'énigme, j'avais vraiment pas vu ce qu'il fallait faire, j'avais vraiment très mal observé le truc.
C'est pas la première fois que tu fais ça en plus, hein, que tu résous une énigme totalement de manière totalement différente de celle prévue.
Complètement, mais là j'étais vraiment, j'étais totalement au pif, parce que je me suis dit, mais voilà, je comprends vraiment pas le truc, donc allez, je m'en branle, je me lance depuis l'aile, la fenêtre elle est ouverte, je fais une espèce de vieux demi-tour à la con, en me lâchant un petit peu et en reprenant la paravoile, machin, j'ai réussi à ajuster à peu près l'altitude, passer à travers la fenêtre, activer le truc, merci, au revoir.
Je fais un truc à peu près pareil dans le donjon Zora.
Ça m'intéresse.
Alors, vous savez qu'il y a un moment dans le donjon, il y a deux espèces de roues à eau. Donc la première, il y a au milieu, il y a, enfin dans chacune des deux, il y a un point de contrôle. Donc il y a la première qui est dans l'eau et l'autre qui est au-dessus du vide et que tu actives en faisant bouger la trompe de l'éléphant.
Tout à fait.
Voilà. Et il se trouve qu'en fait celle qui reste est derrière une porte. Et donc, il faut avoir une espèce de timing avec le kinétis pour pouvoir passer. Sauf que moi, le timing, j'arrive pas trop à le faire. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté dans la porte du. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. C'était très étrange sur comment je l'ai fait. Mais je crois que l'idée, c'était d'avoir en gros de stopper une boule dans son socle avec le kinétis jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que tu puisses rentrer dans la cage où se trouvait le point de contrôle, puisqu'en fait au plafond il y avait des pics.
Oui, je me rappelle celui-là.
Sauf que moi ce que je l'ai fait, c'est que je l'ai fait au mauvais moment. Je suis rentré dans la cage au mauvais moment, donc quand elle était sur la droite et pas sur la gauche, ça veut dire que j'allais me prendre les pics qui sont en bas à un moment. Sauf qu'en fait, le hasard a voulu que je sois resté sur le placement où se trouvait la porte au moment où je suis atterri. Et du coup, la porte ne s'est jamais fermée parce que j'étais en train de bloquer le mécanisme. Apparemment, ça devait être un bug, j'étais dessus, donc ça pouvait pas se fermer. Et du coup, j'ai pu faire tout le tour sans me bouffer les pics, et je suis allé m'occuper du point, alors que le cinétis, a priori, était terminé.
Donc t'as réussi à guaquer le jeu, toi aussi, en mode tryhard.
C'était même pas... C'était vraiment, genre... Je pense que j'avais dû louper mon saut ou un truc comme ça, j'ai fait, merde, bon, et tant pis, je tente. Et juste, je me suis retrouvé.
Et ça passe.
Ah bah ça passe. Bon bah allez.
Mais c'est un peu ça. Hein. Moi, le truc avec le piaf, c'était exactement le même truc. C'était genre, bon, allez, je tente un truc. Pouf, je viens. Ah, ça passe. Zergy, est-ce que tu as une anecdote un peu rigolote d'un truc qui t'est arrivé et qui était un peu chelou?
Non, pas. Aucune. Désolé.
T'as tout fait en mode legit
Je suis pas encore très loin en même temps.
D'accord.
Bon, je sais pas s'il y a vraiment à me les guides dans le jeu, sachant qu'il y a quand même moyen de gruger pas mal de trucs.
Enfin bon, quand même. Tu vois, mais je trouve ça rigolo, toutes ces anecdotes-là, parce que c'est vrai qu'on a tous vécu un moment où on s'est demandé comment je fais ça, et puis en fait, t'as vraiment la méthode qui a été pensée par les développeurs, et puis t'as le « je fais un truc et je vois si ça passe », et c'est vrai qu'il y a quand même une bonne chance que ça passe, donc c'est quand même très rigolo.
Moi, je pense quand même que pour certaines énigmes, ils ont dit « il y a deux, trois autres façons de le finir ». Ils vont y penser, parce qu'un jeu comme ça a été playtesté en interne, c'est obligé. Ne serait-ce que pour qu'ils puissent repérer les failles.
En même temps, comme les développeurs disaient, le moteur physique du jeu, c'était un peu la merde, parce que dès qu'on changeait un truc à un endroit, ça cassait quelque chose autre part.
Oui, forcément. Enfin, ça me paraît évident.
C'est un dur équilibre à obtenir.
C'est une alchimie très compliquée à obtenir. Ça me paraît à peu près évident. Bref, nous allons arrêter cette émission-là.
Oui.
Contrairement à l'émission de la semaine dernière, je vous promets qu'elle sera disponible en podcast très rapidement. Je suis désolé, j'ai été totalement oblitéré par tout un tas d'autres sujets beaucoup plus graves cette semaine.
Donc on pourra enchaîner les deux d'affilée.
Alors déjà, l'autre est disponible depuis aujourd'hui. Je me débrouille pour que ce soit disponible demain matin sur celui-ci. On ne se retrouvera pas la semaine prochaine, parce qu'il se trouve que je suis privé de connexion Internet la semaine prochaine, donc ça va être très compliqué.
Non !
Mais on se retrouve la semaine d'après. Ce sera toujours les vacances, mais au moins on pourra faire 2-3 bricoles. Voilà, ta gueule et mes Tetris. Je n'ai pas de citation du jour, je suis désolé, j'ai pas du tout eu le temps de la préparer.
Ah, moi j'en ai une, si tu veux.
Alors vas-y. Alors, moi, Antix, la citation du jour.
Donc un jour, c'est un petit homme qui se balade dans la plaine, il soulève une pierre et là, il entend « Nom d'une feuille, tu m'as trouvé !»
Mais putain...
Je l'accepte, je trouve ça très rigolo. Bref, donc effectivement, ta gueule et mes Tetris, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde, bisous.
Bye.
Salut.
Salut.